This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$30.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison afin de revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions du Monde de RFI. Un regard différent qui fait la richesse de votre radio. Tout d'abord les événements qui se sont imposés à nous tous, puis dans la seconde partie d'Accent du Monde, ceux qui ont fait un choix particulier, une actualité traitée sur Radio France Internationale et nulle part ailleurs. Ce soir avec moi pour la rédaction chinoise, Nina Nguang. Christina Okello de la rédaction en anglais. Et Miguel Martins de la rédaction en portugais.
Bonsoir.
Bonsoir à vous tous. Alors ces derniers jours ont été marqués bien sûr par l'ouragan Irma qui a dévasté Saint-Martin et Saint-Barth dans les Antilles et qui continue sa course folle le long d'Haïti et de Cuba avant de viser la Floride. À cause de l'ampleur des dégâts, certains ne craignent pas de parler de cataclysme. Or, il y a un cataclysme d'une autre nature qui menace après l'explosion nucléaire menée par la Corée du Nord. Miguel Martins, la rédaction en portugais, a d'abord recueilli l'avis d'un spécialiste de la péninsule coréenne sur cet essai surprise qui remonte à dimanche dernier.
Oui, voilà, Philippe, ce que nous a dit Louise Ma, je vous propose d'écouter ce chercheur portugais qui est expert de la péninsule coréenne.
Temos que assumir que essa é que pode ser a verdade, que estamos de facto perante uma...
Donc il nous disait que les spécialistes estimaient qu'il faudrait beaucoup plus longtemps aux Nord-Coréens pour se procurer cette bombe d'hydrogène. Partant du principe que c'est vrai, ce que dit Pyongyang, nous sommes là face à une vraie puissance nucléaire, même si de petite taille. Elle a cependant un très gros impact à cause de sa situation géographique, comme on le sait, aux frontières de la Chine, de la Russie, de la Corée du Sud, du Japon, et désormais en train d'augmenter sa capacité, pouvant atteindre la côte est des États-Unis.
La Chine, justement, Nina Nguang, c'était au moment où le voisin de la Corée du Nord, qui est la Chine donc, présidait le sommet des BRICS, que la bombe a explosé en sous-sol. Ce n'est pas un hasard, car cela met la Chine, alliée traditionnelle du régime nord-coréen, dans l'embarras.
C'est ça, c'est vraiment important, c'est sûr, mais Pyongyang va célébrer demain, justement, sa 69e fête nationale. La réussite de sa deuxième bombe H va donner de quoi se vanter pendant la célébration, c'est sûr. Oui, ça fait 69 ans que la Corée du Sud reste dans une menace constante et ça explique pourquoi les gens là-bas sont souvent moins paniqués que le reste du monde. On va écouter maintenant une banquière chinoise qui travaille longtemps à Séoul, capitale sud-coréenne.
Que vous a-t-elle dit ?
En fait, elle dit que parmi ses amis et collègues sud-coréens, certains pensent que les États-Unis sont des cibles principales de Pyongyang et s'inquiètent de la pollution nucléaire, surtout qui va sûrement toucher la Corée du Sud si Pyongyang se lâche. Dans ce cas-là, ils croient que la Chine sera du côté de Pyongyang et les États-Unis du côté de Séoul, comme exactement la même chose comme la dernière fois dans les années 50. Mais d'autres pensent que tout cela n'est qu'un enjeu sur de l'argent et de l'intérêt économique, donc pas de guerre. Pas de panique.
Alors cette femme fait partie des 780 000 Chinois qui vivent en Corée du Sud. A-t-elle peur au point de vouloir rentrer chez elle, dans son pays ?
En fait, elle ne se sent pas directement menacée, car même si la situation se détériore, elle croit que le gouvernement chinois ne va pas laisser de côté son peuple sur la péninsule. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule à rester calme, car une autre Chinoise qui travaille pour la compagnie aérienne sud-coréenne Asiana Airlines à Séoul nous témoigne un stable nombre de touristes chinois. Elle dit que depuis le déploiement du système américain de missiles antibalistiques en Corée du Sud, plus tôt cette année, la Chine a interdit les agences de voyage de donner des visas de groupe touristiques à des Chinois qui souhaitent aller en Corée du Sud, et ça reste toujours pareil aujourd'hui. Mais les touristes individuels restent très nombreux comme d'habitude, et puisque maintenant c'est encore la haute saison, les Chinois, surtout de Shanghai et des provinces littorales, continuent d'être la majorité des touristes.
Alors, il y a de l'inquiétude ou pas, il y a un intérêt politique ou économique. Miguel Martins, que cherche au juste Pyongyang dans cette affaire qui nous a tenus en haleine durant tout l'été, hein.
Et je crois que les Nord-Coréens cherchent à atteindre les États-Unis, notamment. Selon Louise Ma, spécialiste portugais de la péninsule coréenne, ils veulent en effet toucher territoire américain. On le réécoute.
O objetivo final da Coreia do Norte é conseguir alcançar o seu programa nucléaire tal comme
le Luis Ma, qui est un chercheur portugais, nous disait que le but du son premier, le but premier de la politique nord-coréenne, c'est vraiment d'être en mesure d'atteindre le territoire américain. Lorsque la Corée du Nord y sera arrivée, alors peut-être repensera-t-elle ses relations avec les États-Unis ou avec ses alliés dans la région, parce que c'est cette capacité nucléaire et de guerre qui assurerait aux Nord-Coréens la protection par rapport à toute attaque ou toute invasion de la part des Américains. Il faut rappeler que Washington et Pyongyang sont encore techniquement en guerre, et ce depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Et tout ne repose actuellement que sur un armistice, une trêve en quelque sorte, mais il n'y a toujours pas d'accord de paix.
Les États-Unis, cible de la Corée du Nord. Christina Okello, si le président américain Donald Trump s'est exprimé, il a fait volte-face en disant finalement vouloir éviter une action militaire.
Oui, avec Donald Trump, on ne sait jamais sur quel pied danser. Philippe, il change d'avis sans cesse. Et dans cette bras de fer qui lui oppose à l'accord du Nord, à la Corée du Nord, on voit bien la schizophrénie dont il fait preuve. Sauf que cette fois-ci, son impétuosité pourrait se révéler dévastatrice. On l'a bien vu il y a quelques semaines lorsqu'il a brusquement haussé le ton contre la Corée du Nord, promettant de lui faire subir le feu et la colère s'il avait la moindre menace envers les États-Unis. Des déclarations qui ont aussitôt irrité les Coréens, qui ont menacé de tirer des missiles contre les bases américaines de l'île de Guam dans le Pacifique. Puis, comme si de rien n'était, aujourd'hui, Donald Trump change d'avis, écoutant le président américain.
Military action would certainly be an option. Is it inevitable? Nothing's inevitable.
Résumez-nous ce que dit Donald Trump.
Donc, en gros, il dit que maintenant, l'action militaire n'est pas inévitable. Il aurait préféré ne pas en arriver là, mais voilà, Corée du Nord est tellement aussi imprévisible que lui. Mais il continue à refuser le dialogue. Il ne veut pas parler avec les Coréens.
Ouais, écoutez, donc, Donald Trump ne croit guère au dialogue, même si certains membres de son administration réclament des négociations, au moins que les uns et les autres se parlent.
Oui, Donald Trump ne croit certes pas au dialogue, comme vous avez dit, mais pour Scott Lucas, un professeur d'histoire américaine à l'université de Birmingham au Royaume-Uni, Donald Trump a tort. Écoutons-le.
We have to accept now that North Korea has nuclear weapons capability.
Donc en gros, il dit, Philippe, qu'il faut accepter la donne actuelle. La Corée du Nord possède l'arme nucléaire, point barre. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut leur parler, il faut parler aujourd'hui.
Alors il faut leur parler, mais comment et sur quelle base?
En restant clair et concis et cohérent. C'est l'éditorial, c'est The Economist dans son éditorial de cette semaine. Il dit que Donald Trump ne peut pas prendre des risques avec Kim Jong-un, qui est encore plus fou que lui. Or, pour Scott Lucas, Trump fait tout le contraire. Écoutons-le de nouveau.
When Trump went off yet again, and this is the third occasion this year, where he has suddenly declared the possibility.
Donc en gros, Philippe, il dit que Trump a été impétueux, menaçant de déclencher une guerre avec la Corée du Nord sur Twitter. C'est la troisième fois cette année qu'il le fait. Mais heureusement, son administration l'a calmé et laissé entendre que la porte au dialogue restait ouverte. Et au vu des dernières déclarations de Trump, il semblerait que le message soit passé. Lui, au moins, a été maîtrisé. Qu'en est-il pour Kim Jong-un? On devrait attendre la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l'ONU la semaine prochaine pour voir bien et bien si le projet de sanctions américaines qui commence à faire son chemin, fera mouche.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 heures à Paris,
20 heures à Paris, c'est grand, puis c'est au ciné.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Alors la rédaction chinoise a beaucoup travaillé sur la tension nucléaire provoquée par le tir nord-coréen. Nous en reparlons donc avec vous, Nina Wang de la rédaction chinoise, avec cette fois le fait que certains sud-coréens veulent bénéficier d'une protection nucléaire. Miguel Martin s'y faisait allusion tout à l'heure. Le président Moon demande donc l'aide des États-Unis, mais ce n'est pas le souhait de tous les Sud-Coréens.
Non, depuis que les États-Unis ont retiré en 1991 des bombes atomiques installées en Corée du Sud, c'est vrai que les Sud-Coréens n'ont plus cette force de dissuasion et cela manque à ceux qui méfient de la promesse de Washington de les protéger. Mais si Séoul les possède à nouveau, ce sera à l'encontre de l'objectif de la dénucléarisation de la péninsule. On écoute maintenant professeur Peck de l'Institut des études de la paix et de l'unification de l'Université de Séoul.
Les 자체로 핵무기를 개발하자고 주장을 하는 사람도 있고
Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui est dit là ?
Professeur Berg nous explique que dans son pays, il existe de différentes opinions là-dessus, mais que ce soit inviter les États-Unis à refaire le déploiement ou développer par elles-mêmes les technologies concernées, il s'agit d'une très mauvaise idée car à ce moment-là, elle n'aura plus d'arguments pour persuader sa voisine au nord d'abandonner les recours atomiques. En plus, si Séoul possède des bombes atomiques, Tokyo ne va pas se tarder à en demander la même chose. Pour qu'une autre course aux armements nucléaires ne se voie pas le jour, il est important de s'en tenir au principe de la dénucléarisation de la péninsule.
Alors le président sud-coréen Moon était un proche de l'ancien président Kim Dae-jung qui lui aussi voulait adoucir l'attitude de la Corée du Sud avec la Corée du Nord. Maintenant, Moon veut reprendre cette politique. Et pour cela, il est beaucoup critiqué par la population sud-coréenne.
C'est ça. En effet, président Moon a fait plusieurs promesses à son homologue nord-coréen, par exemple, ne pas chercher l'effondrement de son régime et ne pas accélérer l'unification de la péninsule coréenne. Et en plus, surtout, essayer de reprendre auprès des États-Unis l'autonomie de défense pour rassurer la Corée du Nord. Le peuple le critique pour ne pas être suffisamment dur, mais pour professeur Peck, ce n'est pas le cas. On l'écoute.
한국의 문재인 대통령이 이제 이산가족 상봉을 하자고 한 다음에 북한이 거절했잖아요.
Quel est le raisonnement de cette professeure Peck?
Elle explique qu'il faut justement continuer à apaiser la tension. Pyongyang refuse la proposition de Séoul au niveau de la réunion des membres de familles séparées par la guerre, mais président Moon a encore relancé l'initiative. Il invite donc Pyongyang à participer à des Jeux Olympiques d'hiver l'année prochaine à Pyeongchang en Corée du Sud. Et professeur Peck croit qu'avec du temps, les efforts vont enfin un jour faire Pyongyang perdre les arguments de résister contre la société internationale. Et enfin, entre la réunification de la péninsule et la paix, elle juge que la paix est la plus importante.
Merci Nina Nguang de la rédaction chinoise de Radio France Internationale. L'Angola est en train de tourner une page de son histoire. José Eduardo dos Santos quitte ce mois-ci la présidence de la République, poste qu'il occupait depuis 1979. Avec le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, le chef de l'État angolais détenait donc le record du nombre d'années passées au pouvoir en Afrique. Pour lui succéder, le MPLA, le parti au pouvoir, avait choisi le ministre de la Défense, Joao Lourenço. Les résultats, Michel Martins, de cette élection, qui s'est tenue le 23 août dernier, viennent d'être rendus publics.
Voilà, c'était mercredi soir. Le MPLA, qui est aux commandes depuis l'indépendance du Portugal, c'était en 1975. Le MPLA obtient un peu plus de 61% des voix et son tête de liste, João Lourenço, doit être investi d'ici 2 semaines. Je vous propose d'écouter ce général angolais, désormais président élu du pays.
Aux leaders dos demais partidos concorrentes, gostaria de manifestar também.
Alors que dit le futur homme fort de l'Angola ?
C'était un extrait de son discours de victoire dans lequel il a tenu à signifier aux leaders des autres partis politiques son ouverture pour un dialogue permanent dans les institutions et ce à partir du moment où cela rendrait l'Angola un pays encore plus grand. Lourenço qui disait compter sur la présence des leaders de l'opposition lors de sa cérémonie d'investiture prévue avant la fin du mois en rappelant qu'ils y étaient invités dès maintenant. Le ministre de la Défense sortant disait également que son geste participait de l'esprit de concorde qu'il souhaitait inciter et mettre en application.
Du reste, Miguel, les recours auprès de la Cour constitutionnelle commencent à être déposés par l'opposition. Déjà pendant le processus de dépouillement, ces appels avaient été nombreux auprès de la commission électorale.
Absolument, ils ont tous été déboutés, faute de preuves, pour les irrégularités dénoncées par l'opposition dans sa quasi-totalité. La CASA-CE, une coalition qui est arrivée troisième, avec plus de 9% a expliqué dès le lendemain de l'annonce des résultats définitifs le sens de sa démarche. Je vous propose d'écouter Lindo Bernardo Tito, le vice-président de cette force politique.
A Casa CE réaffirme à sa position.
Il est donc dans l'opposition, et que dit-il?
Il nous rappelait que sa coalition persistait dans le rejet des résultats des élections, des résultats obtenus, dit-il, à la suite de très nombreuses irrégularités commises pendant tout le processus électoral, aussi bien le scrutin que le dépouillement. Il ajoutait que pour rétablir la vérité électorale, la Casa CE, une fois de plus, allait utiliser les moyens démocratiques prévus par la loi pour contester auprès de la Cour constitutionnelle les résultats fournis par la commission électorale.
Autre parti qui est dans l'opposition, c'est l'UNITA. L'UNITA qui dénonce aussi des irrégularités.
Voilà, son porte-parole, Alcide Sakala, a dénoncé dès hier soir une série d'infractions. On l'écoute.
Estas eleições foram realizadas sobre numerosas infrações.
Donc ce responsable politique affirmait que la plus récente de ces infractions aurait été le fait que le dépouillement régional des voix n'ait pas été fait sous le regard de tout le monde. Il dénonce aussi le parti pris des médias publics rangé derrière le candidat du parti au pouvoir ou encore l'engagement direct dans le processus électoral de l'armée et de la police nationale à travers des actions de soutien à la campagne du MPLA. L'UNITA qui menace de ne pas siéger au Parlement refuse donc d'accorder une quelconque légitimité aux nouvelles institutions issues d'après elle d'actions qui violeraient de façon flagrante la constitution et la loi. Voilà pour le contexte. Nous verrons si le président kényan, avec l'annulation de la réélection du président connaîtra une suite angolaise. En attendant la commission électorale, elle avait déjà rejeté de façon péremptoire toute comparaison de système avec un quelconque autre régime.
Et bien sûr, la rédaction lusophone de RFI, dont vous êtes le chef Michael Martin, suit tout cela avec beaucoup d'attention. Revenons à présent sur la décision de la Cour suprême au Kenya d'annuler la présidentielle du 8 août. Comment elle réhabilite l'image écornée de la justice en Afrique par la même et inspire d'autres pays comme l'Angola, Christina Okello. En effet, jamais une magistrature africaine n'a osé contrarier un président en exercice au point donc de faire des émules dans d'autres pays du continent.
Tout à fait, Philippe, c'est le cas de l'Angola comme on vient d'entendre avec mon confrère Miguel Martins, où les quatre partis d'opposition rejettent en bloc les résultats du scrutin du 23 août dernier. Ils dénoncent, comme Raila Odinga au Kenya, des irrégularités et un manque de transparence. On pourrait leur faire confiance suite aux aveux de la commission électorale kenyane sur les erreurs commises par ses membres lors de la transmission des résultats. Or, la commission nationale électorale en Angola maintient sa position. Le parti au pouvoir, le MPLA, a bien gagné et elle refuse toute comparaison avec le Kenya. Écoutons le porte-parole.
La commission nationale électorale répudie qualquer parallélisme vivido em outras realidades.
Donc c'est le porte-parole de la Commission nationale électorale. Quel est son propos?
Il dit que le CNE a déjà effectué le dépouillement des votes et qu'il est hors des questions de revenir sur ces processus. Il ajoute que la Commission rejette toute comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays, sans citer pour autant le Kenya. Il dit aussi ne pas pouvoir donner suite à la demande de l'opposition d'annuler les résultats. Et là, c'est clair, il fait référence explicitement au Kenya. Mais hélas, Isaias Samakuva, d'éternel opposant angolais, n'est pas Raila Odinga, le leader de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, est arrivé en deuxième place lors de la présidentielle, sa quatrième tentative, mais comme d'autres opposants, il bute toujours sur cette dernière marche de pouvoir, à savoir la justice et la Cour suprême.
Alors la justice qui a longtemps été brocardée pour la corruption, la servitude du régime en place, tout cela a changé. Hein.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, RFI English a interrogé beaucoup de nos auditeurs en Afrique, et la plupart ont salué la décision courageuse, ils nous ont dit, et salutaire de la Cour suprême kenyane qui a reporté des erreurs délibérées lors du vote. Pour Olal Justin, un avocat en Ouganda, sa décision est une illustration claire de l'indépendance de la justice kenyane. Je vous propose de l'écouter.
We tend to think that Kenya has set a trend in the right direction and that it's something that is to be emulated, something that everyone should have.
Résumez-nous ce que dit Olal Justin.
Voilà, Justin dit que le Kenya a montré l'exemple et d'autres pays devraient lui emboîter le pas. Partout, les gens sont en liesse aujourd'hui. Ils peinent encore à croire que l'impossible a pu avoir lieu. Pour la première fois dans l'histoire, une cour africaine a pu rendre un verdict aussi important à un niveau aussi élevé. Et il veut que d'autres s'inspirent de cet exemple kenyan, surtout les personnes qui ont des plaintes à déposer. Et doivent savoir que la justice sera rendue.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce qui s'est passé au Kenya et Christina Okello de la rédaction en anglais. Michael Martins, vous surveillez donc vous la zone lusophone de l'Afrique. Ce qui s'est passé au Kenya va faire des petits.
Voilà, on se demande que ce soit en Afrique anglophone, arabophone ou lusophone. Cependant, en effet, on a beaucoup mis en exergue le fait que le régime judiciaire kenyan manifestement serait, on va dire, peut-être plus performant, peut-être plus indépendant, peut-être plus neutre que d'autres dans le reste du continent. Là, en effet, nos yeux sont tournés plus vers l'Angola. Donc, la Cour constitutionnelle angolaise dispose à partir de ce soir de 5 jours pour analyser les recours. La société civile angolaise s'en inspire très fortement et Christina l'a rappelé. Cependant, ce serait là aussi une situation inédite. Mais bon, le Kenya est rentré dans l'histoire. On verra bien si, par ailleurs, d'autres vont lui emboîter le pas.
Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde et dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.